Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici à nouveau, donc, en cette fin de semaine pour le roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. C'était agréable de voir un film à deux. Existe-t-il une plus juste définition de la paix ? Dans la nuit, tandis qu'à l'écran, les paysages du Wyoming déployaient leur ciel de feu et que les montagnes contemplaient la vie des personnages avec le calme lointain des dieux, je distinguais de temps à autre, à la faveur d'une lueur venue de l'écran, le visage d'Anouk, que j'avais cru somnolente, mais qui était concentrée. Lorsqu'elle allumait une cigarette, un petit brasier rouge faisait étinceler son piercing au coin du nez. J'en profitais pour contempler la ligne de ses lèvres que l'ombre sculptait. Et tandis que la pluie ne cessait de battre contre les baies vitrées, le crépuscule déplia l'infinie variété de ces nuances dans le ciel, qui, en inclinant vers nous les feuillages emmêlés des tilleuls et des marronniers de la cour intérieure, semblait avec l'orage entrer tout entier ce soir dans la chambre. Les grands ciels remplis de montagnes blanches, de la porte du paradis, mêlaient leur éclat aveuglant aux coups de tonnerre dont les grondements affolaient Saba. La nuit était orange et rouge. C'est un plaisir d'être abrité lorsque frappe le déluge. Anouk était blottie contre un oreiller, je devinais son sourire. C'était une nuit parfaite. Elle s'enthousiasma pour la longue scène de fête où les émigrants, avant leur massacre, dansent en patins à roulettes sous le hangar du Heaven's Gate. Cette porte du paradis, qui ne sera finalement pas l'autre nom de l'Amérique, ni celui d'aucune terre promise, mais une pauvre salle des fêtes tamisée de lumière rousse, où dansant au rythme doux-amer de la musique cajun, grouille le troupeau des éternels sacrifiés de l'histoire. Le film durait presque 4 heures. Je proposais une pause. Anouk me demanda si elle pouvait prendre une douche. J'en profitais pour faire des spaghettis et ouvrit une bouteille de vin blanc que je tenais au frais. Elle revint avec une serviette nouée autour d'elle, les cheveux mouillés, parfumé de citron et de fleurs d'oranger. Elle s'allongea à mon côté en souriant. De petites gouttes ruisselaient sur ses épaules. Le vernis de ses orteils était orange. Avais-je entendu Tot rentrer ? Non, aucun bruit, personne. En avançant vers moi son visage pour m'embrasser, elle dénoua sa serviette. Ses seins étaient minuscules, son corps doux et chétif, comme celui d'une hirondelle. Sacrifice. Bref, le 23 septembre, je m'étais offert une fois de plus un visionnage d'Apocalypse Now, que je n'avais cessé de regarder tout l'été. À 15h, au moment où je reçus le SMS de Pointel, j'en étais à la deuxième séance de la journée. Avec ce film, je m'approchais de la clé. J'en avais la certitude. Le daim blanc de la vérité court à travers les films, et c'est la raison pour laquelle je ne cessais d'en visionner. Mais depuis ma rencontre avec Cimino, c'est Apocalypse Now de Francis Ford Coppola que je regardais quasi quotidiennement. Il me semblait que ce film complétait l'expertise de Cimino. En un sens, il en constituait la suite, car avec Apocalypse Now, on allait encore plus loin dans l'exploration des enfers où le monde n'en finit pas de sombrer. Dans ce film, plus que dans aucun autre, on passe à chaque instant de la vie à la mort et de la mort à la vie. La mission du capitaine Villard, que les autorités militaires américaines chargent en pleine guerre du Vietnam de remonter le fleuve à la recherche du colonel Kurtz, ne se déroule pas, selon moi, au Vietnam, pas plus qu'au Cambodge, ni dans aucune région de l'Asie du Sud-Est, mais dans un lieu qui ne figure sur aucune carte. Ce point effrayant, sacré, où la vie et la mort se rencontrent. Car il ne s'agit pas tant pour le capitaine Villard d'aller liquider un élément dangereux de l'armée américaine que de s'approcher du monstre. En effet, le colonel Kurtz, en n'obéissant plus aux ordres de l'état-major, en s'affranchissant de son commandement pour prendre la tête d'une armée de montagnards qui le vénèrent comme un dieu, n'a pas seulement franchi les limites qu'impose l'ordre militaire. Il a basculé dans une dimension inconnue, où le crime, en prenant une signification religieuse, n'a plus d'importance. Les soldats de Cimino, ceux de Voyage au bout de l'enfer, n'étaient que des marionnettes que la guerre s'employait à détruire. Ils tombaient les uns après les autres dans le piège absurde du Vietnam, se retrouvaient prisonniers d'une cage en bambou au milieu d'une rivière infestée de rats, où à bout de force, ils risquaient à chaque instant de se noyer et n'en sortaient qu'afin de comparaître face à leurs bourreaux qui les obligeaient à jouer leur destin à la roulette russe, à s'exposer aux caprices suicidaires du hasard. Et comme les 10 années désastreuses sous les murs de Troie servaient dans l'Iliade à effacer des lignées de héros, l'enfoncement obstiné dans le cauchemar vietnamien semblait n'avoir pour but que d'offrir les soldats américains en cadeau à la mort. Mais l'aventure racontée dans Apocalypse Now se situait à un autre moment du sacrifice. Le moment d'après. Celui où le hasard n'existe plus. Celui où le temps lui-même n'est plus que crime. Si, comme l'affirmait le titre du film, l'apocalypse est là, et les sceaux rompus, alors les actes changent de nature. Non seulement ils n'ont plus aucun sens, mais ils deviennent étrangers à l'univers qui les contient. Ce sont des voix qui se débattent, des gestes qui conjurent, des volontés qui s'aveuglent. Ce que j'avais consigné dans mon scénario avait précisément à voir avec la fin, avec l'idée que la fin est arrivée, qu'elle est déjà là, et qu'en un sens, nous vivons après la fin. Oui. Depuis que ma passion pour Herman Melville avait tout emporté sur son passage, mes journées ne faisaient que s'enrouler dans les délices d'une exégèse qui avait pour objet la fin, l'idée de fin, le filigrane à l'intérieur de chaque instant d'une interminable fin qui détrame le monde. Que cette fin ne relève pas seulement de la dévastation, mais aussi mystiquement de la rosée, qu'elle rafraîchisse le monde au lieu de le pourrir. Melville, comme tous les grands écrivains, l'avait su. Ses livres ne parlent secrètement que de résurrection. Avant de raconter mes retrouvailles avec Pointel, il faut que je vous parle de ma première vision d'Apocalypse Now. C'est à l'époque où l'État islamique a commencé à diffuser ses vidéos de décapitation. On était début août. Étendu sur mon divan, je suffoquais. L'air était humide et sale, comme celui des petites îles infestées de cannibales autour desquelles tourne le Pequod, au large de Sumatra, lorsque le capitaine Ahab, au comble de la fureur, se rapproche de la baleine. Saba hurlait à la mort dans l'appartement d'à côté. Ses cris retentissaient dans la cour intérieure où les voisins à bout de nerfs n'en finissaient plus de protester. Moi, je m'enlisais dans la dépression. Quand bien même on parviendrait à concevoir sa propre solitude comme une gloire, quand bien même on régnerait sur un pays de nuances où le moindre détail ouvre des lueurs, où le pelage d'un dalmatien vous protège, où la floraison étoilée d'une tête de papyrus vous auréole, il n'en reste pas moins que ce pays n'existe que pour soi. Et même, certains soirs, n'existe pas du tout. En gros, le bilan n'était pas fameux. J'avais 49 ans. Je vivais reclus dans un studio de 20 mètres carrés et passais mes journées à regarder des films en buvant de l'alcool. Bien sûr, je me consacrais à une tâche qui me semblait essentielle, quasi sacrée, ce genre d'activité qui touche à l'absolu, qui peut-être même relève de la vocation et nécessite qu'on vive sans se soucier de la réussite sociale. Et je ne perdais jamais l'occasion de répéter ces mots qui me donnaient tellement raison, absolue, vocation, sacrée. Mais j'en venais certains jours à douter du sens qu'un tel passe-temps donnait à ma vie. Car même en admettant avec beaucoup d'indulgence qu'on pût se considérer comme un héros, sous prétexte que le daim blanc de la vérité nous apparaît dans des films, rien ne distinguait cet héroïsme de la vie pathétique du loser. Je pouvais bien réciter à voix haute mes éternels mantras. Melville, Proust, Joyce, ou Dante, Flaubert, Beckett, ou Shakespeare, Rimbaud, Faulkner. Il était devenu impossible certains soirs de savoir si je ne me montais pas complètement le bourrichon, si le daim blanc qui frisonne là-bas sous les branches d'un pin existe réellement, ou s'il n'est qu'un mirage. Si en clamant dans la nuit des noms de poètes, on est soi-même un poète ou plus simplement un clown. Avec la chaleur, l'alcool me tournait la tête. J'ai souvent écrit allongé sur un lit, fiévreux à demi-ivre. J'ai même accueilli dans cet état des clartés qui ont décidé de ma vie. La solitude la plus étoilée procure une joie lente. Dans ces cas-là, je fais durer la nuit. Mais il n'est pas facile de savoir si votre vie s'en va en morceaux ou si vous allez vers ce qu'il y a de plus vivant. Ce soir-là, ni les films, ni Melville, ni mon trône de papyrus ne suffisaient. Il existe un moment où l'angoisse vous mord le ventre. Alors, plus rien ne suffit.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Okay.
and all the children are insane. Older children are insane, waiting for the summer rain. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old and his skin is cold. The West is the best. Is the best. Get here and we'll do the rest.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Suite du roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Bref, j'étais allé boire un verre aux Petits Oignons, un café du 20e arrondissement, à côté de chez moi. Et en quelques minutes, bavardant, riant au comptoir avec Walter, le patron du café, un grand maigre à la barbe grise, fan d'Elvis, comme il disait, avec Anouk, avec Ferdinand, Chiara et Rachid, j'avais repris vie. Les murs des Petits Oignons sont rouges. L'éclairage tamisé donne à ce lieu une allure d'aquarium. Nos paroles, nos rires si ébroux comme des poissons qui filent entre le corail des prairies sous-marines. C'est ainsi que des processions de baleines viennent, couple après couple, nager dans le plus secret de nos esprits et y transportent la terreur, la prière et la délivrance. Ainsi va mon désir. Si je commence à boire, il faut que j'engloutisse l'aquarium. Je dois vider l'océan, ouvrir les écluses du monde. Il y avait un habitué, Gloriot, un type qui écrivait des polars avec des lunettes en écaille et les cheveux tondus poivre et sel, un type très drôle qui s'enfilait exclusivement des pernaux et parlait toujours du diable. Selon lui, Satan était là depuis le début, et c'était à cause de lui que le temps s'était mis en marche pour nous broyer les uns après les autres. Satan s'ennuie comme un gros cafard, c'était son expression. Et plus il a, disait-il à Walter, moins il est, parce que précisément Satan n'est rien. C'est pourquoi il nous veut, il veut qu'on bosse pour lui. Et la plupart du temps, c'est déjà réglé, on ne fait pas un geste sans que ce bouffeur d'âme y soit pour quelque chose. Nos vies, disait-il, sont privatisées par Satan. Ce soir-là, on ne parlait que de l'assassinat d'un journaliste américain par ce groupe de djihadistes encore mal connu, l'État islamique. La vidéo de sa décapitation avait été postée sur Internet, et d'après ce qu'en disait Gloriot, qu'il avait regardé, c'était une abomination. Les mains liées dans le dos, en combinaison orange, la victime était à genoux dans un désert d'Irak ou de Syrie, et derrière lui, debout, un type cagoulé de noir éructait en anglais une malédiction contre l'Amérique. Des drapeaux noirs claquaient dans le désert, recouverts d'inscriptions blanches en arabe. On découvrait ensuite le corps en combinaison orange couché dans le sable. Il y avait ceux qui avaient regardé la vidéo et ceux qui, par éthique ou par dégoût, avaient refusé de la voir. L'éthique et le dégoût semblaient parfois indiscernables. Rachid, un long type au visage émacié, le crâne rasé, qui tenait la boutique Found Call de la rue Orfila, trouvait dégueulasse qu'on regarde de telles vidéos. C'était faire le jeu des djihadistes. C'était du voyeurisme. Selon lui, Gloriot prenait plaisir à cette pornographie du crime. Gloriot se défendait. « Je m'informe, » disait-il. « Et non seulement je m'informe, mais je me prépare. Je ne veux pas que l'horreur me soumette. Je veux tenir face à l'horreur et triompher de la terreur dans laquelle le mal croit nous amoindrir. Je ne la regarde pas par fascination, » disait Gloriot, « mais au contraire, pour vaincre la fascination qu'elle nous inspire. » Il s'ensuivit des huées. Rachid et Ferdinand protestèrent avec véhémence, et même Walter, habituellement taiseux, s'aventura à affirmer que nous n'avions besoin d'aucun massacre pour savoir qui nous étions et ce que nous désirions. Les sacrifices ne nous apprennent rien. Les supplices sont toujours en trop. Ils ne font qu'approfondir l'injustice. Un type un peu bizarre prit la défense de Gloriot, un grand noir que tout le monde appelait le baron. Le béret vissé sur la tête, surmonté d'une petite plume, des yeux énormes, une élégance martiale. Il était complètement ivre, tremblait en serrant sa bière, mais parlait avec assurance. Selon lui, nous finirons tous agenouillés dans un désert, la gorge ouverte au verdict de Dieu, et peu importait de quel Dieu il s'agissait, peu importait même l'idée de Dieu, peu importait ces conneries de religion qui nous effraient, nous avions perdu le rapport avec nos propres existences, nous étions peut-être des impies, mais surtout des misérables, amoindris, aveuglés, asservis, lui pas moins qu'un autre, précisa-t-il. Et si la faiblesse est une faute, et selon lui, elle l'était. Notre faute appelait nécessairement une révolution. Il était devenu urgent que nous changions notre manière de vivre et que nous nous remettions à penser, car l'absence de pensée mène au gouffre. Et précisément, c'était l'absence absolue de pensée, l'absence de pensée des Occidentaux, autant que l'absence de pensée des djihadistes qui nous ramenait à la scène la plus primitive de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la mise à mort dans le désert. Le vin, le whisky m'embrouillaient la tête. En restant isolé si longtemps dans ma chambre à regarder des films, j'avais perdu l'habitude des autres. Toute cette agitation, ce flot de paroles, me faisait l'effet d'une avalanche. Je me voyais doucement dans le rouge des murs qui dégoulinaient dans nos verres. La soif ouvre un chemin d'étincelles qui glisse dans mes veines. C'était d'abord des gouttes, comme s'il pleuvait du sang, puis des giclées rouges se sont mises à lécher nos doigts, à mouiller nos cheveux, à baigner nos visages. Et tandis que Walter, exaspéré, montait le son pour que la voix d'Elvis couvre tout ce bavardage, je me noyais doucement dans un flot de petites lumières. Les visages tremblent dans mon verre. Le ciel s'écoule, fruité, entre mes lèvres. C'est un bain d'étoiles écarlates où ruissellent des mots que la voix d'Elvis fait chalouper. Anouk et Ferdinand dansent en reprenant à tue-tête les paroles de Suspicious Mind et Walter refait derrière son comptoir le geste d'Elvis lors du concert de 1970 à Las Vegas, ce moulinet de crooner qu'il exécute en costume de vinyle blanc et dont le caractère parodique, loin de détruire le spectacle, lui ajoute une dimension lointaine, comme si la frime et la tendresse en coïncidant ouvraient à une vérité indéchiffrable. Les dieux qui se moquent d'eux-mêmes sont les plus puissants. La vision du sacrifié en combinaison orange dont avait parlé Gloriot ne me quittait plus. Accroché au mur des petits oignons, sa tête me regardait comme celle d'un animal empaillé. De sa bouche s'écoulait une lave vert et noir, comme si en mourant il recrachait les visions qu'il avait endurées. Alors j'entendis, je lus sur ses lèvres ce cri « L'horreur !» La tête me tournait. Je m'accrochais au comptoir. Dans mon ivresse, appelée par les filtres orangés du couchant, par un sillage de mains coupées voguant au fil de l'eau, apparut le visage du colonel Kurtz. Le crâne chauve, luisant d'humidité, de Marlon Brando à la fin d'Apocalypse Now. Il est allongé sur sa couche, dans la pénombre d'un temple au milieu de la jungle, et transpire. Les ténèbres sont vertes, les palmiers sont remplis de cadavres pendus aux branches, des têtes coupées s'empilent sur les marches qui mènent jusqu'au colonel Kurtz. Il me semble que la boue est une salive morte. Il me semble que je nage dans cette boue en direction du temple, en direction de Kurtz qui se tourne vers moi et me lance un paquet recouvert de chiffons. Je le rattrape, c'est lourd, gluant, j'ouvre, c'est ma tête. Le colonel Kurtz dit « Le monde finit comme ça ». Cette apparition me terrifia. En allant aux toilettes, je croisais mon image dans le miroir au-dessus du lavabo, mais ce n'était pas moi. Bien sûr, il y avait une ressemblance. Le visage qui s'affichait ne m'était pas inconnu. Mais je ne pourrais dire si c'était le mien. Les traits étaient secs, les joues creusées, les yeux clos. Comment est-il possible de rencontrer son reflet avec les yeux fermés ? Je me suis approché. Non seulement les yeux restaient clos, mais la peau de ce visage était bleue. Bref, je voyais un mort. Ce n'était pas désagréable, c'était même intéressant. Mais ce qui me saisit plus que ma tête de mort, c'était le désir soudain. Et plus que le désir, la nécessité, l'urgence de trouver des mots. Face à ma tête de mort, il fallait absolument que je prononce une parole. Il me semblait que je n'avais jamais éprouvé de manière aussi impérieuse la nécessité du langage. Non seulement je sentais que les mots existaient, comme si j'assistais à leur naissance, mais je faisais corps avec eux. Il n'y avait plus de différence entre eux et moi. Trois mots étaient sur le point de sortir de ma tête et j'étais ces trois mots. Avec un feutre noir, je traçais à la va-vite trois petits rectangles vides sur le miroir, les deux premiers à la place des yeux et le troisième à la place de la bouche. En prononçant chaque nom, je remplis les rectangles. Isaac, Moby Dick, Colonel Kurtz. Ainsi le mort s'est-il effacé. À la place, il y avait moi, les yeux exorbités par la fatigue et l'alcool, avec un rire figé. J'étais revenu. Je quittai précipitamment le café. Dans la rue, Anouk et Ferdinand fumaient. Anouk me toucha le bras. Est-ce que j'allais bien ? Je me mis à courir. Une voiture manqua de m'écraser. La nuit sur l'avenue Gambetta était rouge, et dans ce rouge des arbres brûlaient tout au long de l'hôpital Tenon. Lorsqu'on allume un feu, la transparence de l'air se brouille. Très vite, la fumée dissipe l'obscurité. Et voici qu'avec les flammes, avec leurs crêtes oranges et bleues, s'ouvre un passage. Ma bouche était pleine de feu. En courant, je portais des flammes. J'étais moi-même le passage. Je croisais le baron qui pissait contre un mur. Il leva les poings et maudit le ciel. J'éclatai de rire. Les couleurs du feu riaient avec moi. Jaune, rouge, bleu, elles scintillaient dans le ciel comme une guirlande de Noël. Dévalant l'avenue, ivre, la tête pleine de rire, j'étais encore à l'intérieur de mon scénario. Je nageais dans ces phrases. À travers la terreur qu'elle ouvrait en nous, la gorge tranchée du journaliste américain délivrait une parole, un chuchotement. Le rite ne s'interrompt jamais. Voilà ce que rappelait cette voix. Et donc nous avons terminé pour ce soir la suite de ce roman de Yannick Haenel, « Tiens ferme ta couronne ». Que nous retrouverons donc la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.